Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Une histoire qui nous conduiront, au fil des mois, à travers le Sud. Notre Sud, ce pays où il fait souvent si bon vivre, entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre les Pyrénées et une ligne vague, qui se situe au nord de l'Aubrac, mais pas trop au nord quand même, il faut pas exagérer. Chacune d'elles aura un thème et, cette fois-ci,
nous allons suivre quelques instants les pas de Violette. Violette, une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Je suis aveugle. Autant le dire d'entrée, tout sera plus simple à comprendre. Je suis aveugle et depuis une heure, deux inspecteurs de la police sont chez moi. Un homme et une femme. Lui, je devine qu'il trimballe une carrure de rugbyman, ramassée sur lui-même, poitrine à l'étroit dans une veste trop petite. Quand il se déplace, le plancher grince et mes verres en cristal tintent dans le buffet du salon. Elle est menue, mais très tonique et très souple, et ses pas, dans la pièce, suivent le rythme de ses phrases, rapide, sec, saccadé. Entre eux s'est installé depuis longtemps un climat de tension permanente qui alterne entre l'attirance et le dégoût, sans jamais trouver de juste milieu. Quand on est aveugle, on sent cela, même avec des personnes qu'on n'a jamais vues. Pour que le décor soit complet, précisons que j'habite au 7e étage d'un immeuble dans lequel, ce matin, on a trouvé un cadavre. Je suis le dernier à être interrogé. Est-ce parce que j'habite au dernier étage ou parce que je suis aveugle et, donc, selon une idée reçue assez répandue, incapable d'être un témoin crédible? Je penche par expérience pour la seconde hypothèse. Et pourtant. Pourtant, je connaissais bien la victime. Pierre-Jean de Hammersack. Ce pauvre con de Snobinard voulait qu'on dise « de Hammersack » et pas « d'Hammersack ». Sinon, il permettait aux intimes de l'appeler « Jam » ou « Jamie » à l'américaine. Moi, je disais « Jam ». Je suis sommelier dans un des meilleurs restaurants de Toulouse. On dit que mon palais est unique, exceptionnel, et je compense, à l'oreille, ce que la vue me refuse. D'un vin, je ne décris pas la robe, mais la mélodie. Les vrais connaisseurs sont subjugués. Les autres, comme Jam, se contentent de suivre l'opinion générale. Jam était un de mes clients. Je lui vendais, à prix d'or, des crus médiocres. Mon éthique personnelle m'impose de taxer les cons chaque fois que l'occasion se présente. Nous habitions, devrais-je dire, mais l'ambulance n'a pas encore quitté la cour intérieure pour transporter son cadavre à la morgue, alors je vais attendre un peu. Nous habitons donc tous les deux le même immeuble. L'endroit est cossu, dans un style très nouveau riche. Moi, je me suis installé là parce que le lointain constructeur de cet hôtel particulier, un des plus vieux de la cité, a eu l'idée géniale de protéger les caves de l'édifice contre les infiltrations d'eau du fleuve tout proche. Un tel aménagement, rarissime, est indispensable au stockage et au vieillissement de mes vins.
Voilà tout ce que je sais faire. Du vent dans des coffres en bambou, des pans de ciel pour mettre à tes paupières et d'autres pour pendre à ton cou. C'est rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout, mais j'y ai mis tout mon savoir-faire et toute notre histoire en dessous. Tu vois, c'est presque rien. c'est tellement peu. C'est comme du verre, c'est à peine mieux. Tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu. Des pensées prises dans des perles d'eau claire. Je t'envoie des journées entières. Des chats posés sur les genoux, des murs couverts de fleurs que tu préfères, et de la lumière surtout. Rien que des musiques légères. Source entre deux cailloux, du linge blanc sur tes années de guerre, c'est tout ce que je sais faire, c'est tout. Tu vois, c'est presque rien, c'est tellement peu, c'est comme du verre, c'est à peine mieux, tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu. Des pensées prises dans des perles d'eau claire.
Jam a donc été découvert, le crâne brisé, dans les sous-sols de l'immeuble. Un seul coup, porté à l'occiput, l'a atteint. Des traces de tentatives et d'effraction ont été découvertes sur la porte de ma cave. Mes bouteilles ont sans doute attiré les voleurs, mais ceux-ci ont été surpris en pleine action. Tout incite à penser que Jam se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Les cambrioleurs, en fuyant, ont tenté de l'assommer et le coup, hélas, a été fatal. Au silence qui, entre les questions que l'on me pose, s'étire de plus en plus, je devine la gêne des inspecteurs. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas attendre grand-chose de moi, mais ils ne veulent pas le montrer. Alors ils font traîner, avec maladresse. « Les bouteilles que vous possédez coûtent très cher ?» me demande l'homme. « Oui. » Je limite mes réponses au strict minimum. Pour augmenter leur malaise, et je m'en amuse. Elles pourraient être revendues ? Non. Pourquoi ? Trop rares. On saurait vite d'où elles viennent. Alors, pourquoi les voler ? Pour les boire. On ne prend pas de tels risques juste pour boire quelques bouteilles. Vous, je ne sais pas, mais moi, je peux. Ma réponse les laisse pantois. Ils ne me demandent même pas si je plaisante, pas plus qu'ils ne cherchent à savoir si j'ai entendu quelque chose. L'envie de leur dire, sur un mode ironique, que les aveugles ne sont pas sourds me taraude, mais je résiste. Après tout, qu'ils se débrouillent. Au moment où je referme la porte sur eux, j'entends, sur le palier, deux soupirs de soulagement qui s'échappent en même temps de leurs lèvres. Ils ne reviendront pas me voir de sitôt. Et ils ont tort. Oui, ils ont tort, car personne mieux que moi ne connaît cet immeuble et ce qui s'y passe. Par je ne sais quelle étrange particularité architecturale, chaque bruit qui naît au sein des appartements et des studios rampe et monte jusqu'au 7e étage. Pour la plupart des gens, la somme de toutes ces rumeurs ne donne qu'une vibration insipide, sans relief, mais je ne perçois pas comme les autres les bruits de l'immeuble. Je me déplace au milieu d'eux comme dans un labyrinthe dont moi seul je connais le plan. Et si, d'aventure, monte un son inconnu, ou plus difficile à déchiffrer que d'habitude, mon odorat me vient en aide. Ainsi, pendant des semaines, j'ai confondu le bruit de deux portes d'entrée, celle des Vinci et celle des Aubrac. Et puis, un jour, en passant devant le second de ces appartements, j'ai humé l'odeur caractéristique du terreau humide. Madame Aubrac aime les fleurs à la folie et elle en cultive dans chaque recoin disponible de son salon, de sa cuisine ou de son balcon. Maintenant, je ne confonds plus le bruit des portes. J'attends quelques instants et, si une odeur de tubérose monte jusqu'à moi, je sais que quelqu'un est entré chez les Aubrac. Avec le temps, j'ai aussi découvert que, chez les Vinci, on aimait le chou et la cuisine grasse, les sauces fortes, les vins épais. Tout cela développe une odeur puissante et caractéristique, désormais indissociable pour moi, de cet appartement.
Tu te donnes à moi sans confession. Quand je veux t'aimer, tu glisses une larme d'émotion dans ton décolleté, et je voudrais trouver les mots, mais je ne sais plus très bien si je dois me vouer à ton Dieu ou à tes saints. Alors sur ma peau tu laisses tes traces de toi. Tout ce que je vois là dans tes yeux ne regarde que moi. Et l'amour, c'est tout ce que je veux refaire avec toi. Si souvent je suis envieux de ta jeunesse, si je m'attache à elle comme un esclave à sa maîtresse, c'est que sur moi je veux garder des traces de toi. Toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter quand ton cœur fait bang bang. Quand ton cœur fait bang bang bang, 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 bang.
Je suis comme une araignée qui déploie ses toiles dans deux univers différents, celui des sons et celui des odeurs. Trois univers, devrais-je dire, car je connais aussi, avec une précision qui les ferait trembler d'effroi, s'ils s'en doutaient, les habitudes de mes voisins et, d'un bout à l'autre du cadran horaire, jour après jour, mois après mois, si je le voulais vraiment, je pourrais décrire avec exactitude ce qu'ils ont fait. Ainsi, aujourd'hui, mardi, jour du meurtre, M. Vincent s'est levé le premier, comme toujours en semaine, 6h du matin. Il part tôt pour éviter les bouchons et il a une façon caractéristique de refermer le portail de la cour. Sa femme se lève en même temps que lui, prépare le café, puis ils le prennent ensemble. Ils ne parlent presque pas, juste quelques banalités. À cette heure-là, dans le silence de la nuit, les voix humaines portent loin et mon oreille est suffisamment aiguisée pour faire la différence entre une dispute, un dialogue empreint de tendresse et un pur échange de lieux communs. À peine M. Vincent est-il parti que le mari de la concierge, Paolo, va vérifier que le portail est bien fermé. Paolo vit dans la hantise qu'on oublie de fermer le portail. Que craint-il ? Il ne connaît du monde extérieur que ce qu'il voit à la télévision. Ah, ça suffit, je l'admets, pour flipper un peu. Vers 7h, un branle-bas de combat secoue l'immeuble. 8 réveils différents vibrent en même temps. Le second mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, qui arrache Mademoiselle Arest au sommeil, au 3e étage, couvre, contre toute attente, les autres signaux. Pourtant, plus vindicatif et plus autoritaire. Mademoiselle Arest joue du violon. Que dis-je ? Mademoiselle Arest joue admirablement bien du violon. Elle fait partie de l'orchestre du Capitole et quand elle répète, certains soirs de printemps, j'ouvre une bouteille de Chablis et l'arôme du vin, souple, gracieux, se confond avec les adagios qui montent de sa fenêtre. Peut-on affirmer que je suis amoureux d'elle ? Oui, bien sûr. Mais elle sort avec un violoncelliste brutal et borné. Je le sais car, chaque fois qu'il lui fait l'amour, elle met plusieurs jours avant de retrouver le phrasé délicat qui, lorsqu'elle joue de son instrument, la caractérise. À 8h, le silence s'installe. Ne reste dans l'immeuble que la concierge, son mari, moi, je ne quitte mon appartement qu'en fin de matinée, et Violette. Violette commence ses cours vers 10h. Des cours de quoi d'ailleurs ? Je m'en moque. D'elle, je ne connais que le rire, la grâce, la joie de vivre et le parfum, parfum qui se confond avec son prénom. Ça me suffit. Ça suffit à éclairer chacune de mes journées, été comme hiver. Violette est jeune et turbulente. Elle ne respecte aucune des règles qu'on lui impose. Elle parle à tout le monde, rit avec tout le monde. Les imbéciles et les frustrés prennent sa nonchalance pour de l'impudeur. Quelle stupidité ! Ça n'a pas plus de sens que de croire que le feu, la vague ou le vent sont impudiques. Ils sont comme ils sont. Ils poursuivent un but qui nous dépasse et que nous ne comprenons pas. Il en va de même pour Violette. Mais à trop mépriser les règles et ceux qui les font, on peut tomber dans un gouffre.
Je laisserai le lit comme elle l'a laissé. Des feuilles rompues, les draps emmêlés. Afin que l'empreinte de son corps reste gravée dans le décor, je resterai là, immobile, les bras croisés, presque tranquille. Je laisserai la chambre comme elle l'a laissée, l'odeur de camel gauloise mêlée. Afin que la lumière retienne son ombre nue dans les persiennes, au bout du quai tombe le jour, je reste là, sentant l'amour.
Dans ce port de fêlé, juste à l'envers du monde, où d'énormes soleils peut renvoyer mes ondes, où l'énorme bascule au fond des volcans s'ouvre, où je traînais mes bottes, gaspillant ton amour. Attention fragile, attention fragile. Je laisserai ma peau comme elle l'a laissé, sueur et cannelle, orange, poivré, afin que ma mémoire revienne me dessiner cette rasienne, cette créole de secours, quand je titube au petit jour. Je prendrai ma vie comme elle l'a laissé, avec un sourire en coin, un secret, afin d'accepter la tendresse que j'avais refusée sans cesse, avec l'impression d'être fort. Le sommeil, c'est presque la mort. L'énorme soleil me renvoyait mes ondes, où l'énorme bascule au fond des volcans s'ouvre, où je traînais mes bottes, gaspillant ton amour. Attention fragile, attention fragile.
Jam, Pierre-Jean de Machin à Mersac, a guetté Violette comme un chat guette un oiseau. Il a appris à la connaître, il a cherché ses points faibles, il a pénétré dans sa bulle sans qu'elle s'en aperçoive, puis, une fois qu'il a posé ses griffes sur son cou, il ne l'a plus lâché. Moi, je savais bien que Violette, sous ses dehors indociles, était fragile. Elle avait besoin de s'envoler, de s'échapper, quitte parfois, à fuir en cachette. Quand Jam lui a mis la main dessus, il l'a peu à peu entraîné dans son monde abject, fait de mensonges et de fric. Que lui donnait-il? Que lui donnait-elle? Je préfère l'ignorer. J'ai découvert que quelque chose n'allait pas lorsque le pas de Violette, ce pas de funambule en équilibre au milieu du ciel, est devenu plus lourd. Puis, son rire s'est assourdi et elle a cessé de chanter. Jam, lui, devenait de plus en plus arrogant. Sa voix prenait des accents suraigus et insupportables. Un jour, enfin, j'ai découvert, au bruit qui se propageait dans l'immeuble, qu'il se retrouvait dans la cave, devant la porte de mon cellier. Il fallait que j'intervienne. Tout se déroula comme je l'avais prévu. J'ai guetté Jam dans l'obscurité du sous-sol. Lui, il voyait mal mes gestes et, comme à son habitude, il sifflotait entre ses dents des mélodies indigentes. Je savais donc avec exactitude où était sa tête, où il fallait frapper. Un coup suffit, net, précis, puissant. Je suis aveugle, mais mes gestes sont sûrs. Il me fut facile de simuler ensuite la tentative d'effraction puis de revenir chez moi. J'ai entendu Violette descendre à la cave, pousser un léger cri, puis rentrer chez elle. « Tu as bien fait, ma petite, ai-je pensé. Ne te pose pas de questions. » Je m'occupe de tout. J'entends le calme habituel de l'immeuble reprendre ses droits. Paolo a vérifié derrière les policiers que le portail est bien fermé. Violette va bientôt partir au lycée. Je me débrouille pour la croiser dans la cour au moment où elle s'en va. Elle s'approche, se penche à peine et, sans ralentir le pas, me murmure « Merci. Faites attention à vous. J'ai envie de lui dire « Tu sais, Violette, je ne suis même pas capable de faire un témoin correct, alors, avant de devenir un coupable potentiel. » Mais je lui souris, sans répondre. Sur la ville, le printemps dépose le parfum délicieux des tilleuls et des maraudiers en fleurs. J'entends murmurer le fleuve à quelques rues de moi. L'air qui flotte sur les toits porte encore l'odeur acide et froide du matin, mais se remplit peu à peu des mille fragrances qui montent des rues, des boutiques, des passants. Mademoiselle Areste réveille son violon avec une sorte de tendresse amoureuse. Ce matin, elle joue du Brahms. C'est une musique qui s'accorde bien avec le printemps, mais elle joue moins bien que d'habitude. Son amant, le violoncelliste, est venu dimanche soir. Il va falloir que je m'occupe, très vite, de son cas.
Quand j'ai vu traîner le long de mon avenue, malgré ma canne blanche, je l'ai vite reconnu. Avec ses yeux peints, couleur mélodrame, on fait tout ce qu'on peut du temps et de son âme. J'attendais la nuit à l'ombre de l'usine, je regardais ma vie comme un vieux magazine. Le vent était chaud, le ciel plein de rouge, elle marchait sur un bateau qui bouge. Elle est venue vers moi pour m'apprendre mon rôle, quand ma solitude était vraiment pas drôle. J'ai senti l'orage quand ma voix s'est cassée, mais déjà je dansais comme un clown sur la trace de Salomé. Il y avait dans son lit quelques cartes égyptiennes. Elle m'a demandé de deviner la mienne. Plongeant dans mes yeux, elle jouait les sirènes. Moi j'étais son fou, elle était ma reine. Avant de sortir, j'ai volé toutes ses cartes. J'en ferai des souvenirs pour ses amants qui partent. Elle semblait dormir, j'ai cru qu'elle rêvait. Ma chance est fragile, je voulais pas l'user. Dans ses marches, j'ai pas fait de vacarme, mais j'ai vu ce fou se prendre au signal d'alarme. Une fois dans la rue, j'ai enfin respiré. Il pleuvait, mais le vent de minuit a chanté pour Salomé. Jean-Baptiste, et lui demandait si le temps qui passe existe. Sur le bord du puits, quand l'autre a maudit, l'ombre en plein midi, personne n'a compris. Oscar est parti sous la nuit d'équinoxe, il a juste laissé sa paire de gants de boxe. Tout était en place, le rideau s'est levé, les juges ont crié, place aux condamnés. Tout ça peut paraître une bien étrange histoire, sa morale est loin